라디오 같이 넘게
À la semaine plaisir pour le même devoir. Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Isabelle Mathieu-Tombé, ancien commissaire général du gouvernement chargé de la francophonie et actuellement représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Bienvenue madame dans cette émission.
Bonjour.
Vous êtes notre grand témoin d'aujourd'hui. Avec vous dans cette émission, nous vous ferons découvrir auprès de nos auditeurs. C'est vrai que certains vous connaissent déjà, peut-être superficiellement et d'autres non. Mais nous, nous allons donner l'occasion à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment de vous connaître un peu plus, même dans les moindres détails, si vous le permettez. Nous parlerons de votre parcours professionnel et politique et de la fonction que vous assumez actuellement. Mais commençons d'abord par votre personne. Vous êtes né où et quand?
Je suis né à Lubumbashi, au Katanga, il y a 50 ans, il y a une cinquantaine d'années. Et j'ai fait 3 ans dans mon pays et puis je suis allé grandir ailleurs.
Donc une partie de votre enfance, vous l'avez passée à Lubumbashi?
Écoutez, les 3 premières années de ma vie, je les ai passées à Lubumbashi.
Et puis après, vous avez quitté le pays?
Ensuite, je suis partie en France. Et puis j'ai grandi aussi en Belgique, donc disons que la majeure partie de ma vie, je l'ai passée en Europe.
Et c'est en Europe que vous faites vos études primaires, secondaires?
Oui, je commence en Europe, je commence à Paris la maternelle, ensuite je la poursuis en Belgique, et là je fais mes études primaires, mes études secondaires, où c'est les latins grecs. Ensuite, je retourne à Paris où j'entre à la Sorbonne. Et là, je fais une licence de lettres. Ensuite, je fais une maîtrise de philo et lettres, les lettres modernes. Et puis, je fais aussi la communication. Et
vous avez 2 licences.
Oui. Et la culture et mass media. Donc ça, c'était plutôt un certificat complémentaire que je fais.
Et pourquoi 2 licences, mais madame Tombé?
Parce que j'aimais étudier. Non, disons qu'en réalité, je voulais devenir journaliste. Je voulais devenir journaliste, mais j'avais 18 ans. Je suis arrivée à Paris. J'avais la grande ambition d'aller au centre de formation des journalistes. C'est une école très prisée. Mais ils m'ont refusé parce que j'étais trop jeune. Alors ils m'ont dit, non, vous êtes un peu jeune et vous n'êtes pas envoyée par un gouvernement ni par une société. Alors, il faudrait essayer de faire un DEUG. Un DEUG, ça équivaut ici, je pense, à un graduat. Essayer de faire un DEUG dans une université et puis revenez nous voir. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à la Sorbonne. Donc, j'ai commencé à faire les lettres. Mais comme je n'aime pas m'arrêter au milieu du chemin, je me suis dit, non, terminons la licence. Et puis, la philosophie m'intéressait aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça? Et ça permettrait, au fond, de compléter mon background quand je voudrais être journaliste. Et comme ça me permettait aussi, à la Sorbonne, de faire la communication et la culture des mass médias. Donc, finalement, j'ai fait d'une pierre 2 coups, je dirais même de 3 coups. Et j'ai terminé là. Et je pouvais être journaliste sans passé par le CEJ. Donc j'ai commencé alors à travailler comme journaliste.
Dites-nous, quel genre d'enfant étiez-vous en grandissant?
Oh, j'étais une enfant très réservée, très timide. Je me suis soignée depuis, rassurez-vous. Mais j'étais très très timide. J'étais la 7e enfant d'une famille de 9 enfants.
Vous êtes la fille de ce Moïse Tshombé, ancien premier ministre du Congo.
Oui, tout à fait. Donc j'étais la 7e enfant et avant moi, donc il y avait des grands frères, des grandes sœurs qui avaient des très fortes personnalités. Et donc j'avais quelques difficultés à peut-être m'exprimer, ou bien c'est peut-être parce que, au fond, jamais être solitaire. Donc je me créais beaucoup d'univers imaginaire et puis je jouais assez seul, je lisais beaucoup. Donc la lecture, généralement, on le fait seul, donc ça m'a plutôt rendu un petit peu réservée, mais en public, j'étais très timide. Et il a fallu, finalement, qu'on me force à participer à des mouvements de jeunesse pour avoir des responsabilités et être obligé de m'exprimer. Donc c'est comme ça que j'ai appris à m'exprimer.
C'est ces mouvements de jeunesse qui vous ont soigné de votre timidité, si je peux dire.
Oui.
Alors quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance? Des souvenirs, il y en a eu beaucoup, mais le souvenir qui vous a le plus marqué?
Je pense que c'est quand mon père m'a appris à nager, je crois.
Vous aviez quel âge?
J'avais 4 ans. J'avais 4 ans et nous étions en Espagne. Et moi, j'étais obligée d'avoir une bouée, alors que tout le monde nageait sans bouée. Donc, j'étais assez triste et désolée parce que, évidemment, j'étais un petit peu la cinquième roue du carrosse puisque tout le monde pouvait jouer et nager. Alors, mon père s'est mis à m'apprendre à nager. Donc, il m'a d'abord appris à nager en mettant ma tête en dessous de l'eau. Et puis, progressivement, il me faisait sortir la tête de l'eau. Et en prime, donc je pouvais sortir de la plage, installée sur ses épaules. Donc c'était le grand honneur et bon, j'étais la reine de la fête, je pouvais dire. Et je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs.
Et vous nagez très bien, j'imagine.
Ah ben depuis, oui, j'ai eu le temps d'apprendre à mes enfants aussi à nager.
Une petite question de curiosité, Madame Isabelle, tu m'étais mariée?
Oui, je suis mariée.
Tu as l'air de combien d'enfants?
Oui.
Oui,
oui.
Un peu comme les parents, vous avez emboîté le pas des parents?
J'ai emboîté le pas des parents sans toutefois réellement l'emboîter parce que, au fond, je suis la mère d'une famille recomposée, comme on dit. Alors, ça fait que, à nous deux, mon mari et moi, nous avons 8 enfants.
Radio Catherine, grand témoin.
Isabelle Mathieu Tombé, ancien commissaire général du gouvernement chargé de la francophonie et actuellement représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, est celle que grand témoin je sois pour vous aujourd'hui. Parlons de votre parcours professionnel et politique. Vous avez été assistante du ministre conseiller de l'ambassade de la République islamique de Mauritanie près le royaume de Belgique en 1985.
Oui.
Comment cela, vous, Congolaise?
Écoutez, ils avaient besoin de quelqu'un qui avait un peu mon background.
De n'importe quelle nationalité?
Je ne sais pas si c'était de n'importe quelle nationalité, mais une opportunité s'est trouvée. Parce que souvent, je pense que le travail professionnel surgit d'une rencontre. Et parfois, c'est une rencontre privilégiée. Donc, comme je fréquentais un certain nombre d'amis de la diaspora africaine et que j'avais aiguillé plusieurs étudiants boursiers, pouvaient dire que j'étais un peu un produit belge. J'étais une petite Belge, donc j'étais comme un poisson dans l'eau en Belgique. Donc j'aidais beaucoup les gens parce que mon père justement avait créé une maison pour accueillir les étudiants protestants, parce que il y avait toujours des centres d'accueil pour les étudiants catholiques. Et donc de temps en temps nous allions là-bas pour voir un peu comment les choses fonctionnaient. Et ma mère a servi assez souvent de mère adoptive à bon nombre de Congolais et parfois d'autres nationalités qui venaient en Europe pour la première fois. Et c'est ainsi que, bon, avec cette expérience-là, l'ambassade de Mauritanie avait besoin de quelqu'un qui pouvait effectivement encadrer les boursiers et qui pouvait aussi faire un pont avec, parce qu'il y avait la création des ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique, donc cette organisation-là venait de se créer, ça ne faisait pas trop longtemps, et il fallait quelqu'un qui connaisse bien l'environnement et qui puisse, au fond, venir en aide au service diplomatique de l'ambassade de Mauritanie. Et comme ils n'étaient pas sectaires, donc mon profil leur a convenu, et voilà, j'ai commencé à travailler avec eux, avec plaisir d'ailleurs, parce que c'était la première fois que, d'ailleurs, j'étais en contact réel avec, je dirais, une représentation nationale. Hein. Moi, j'étais en exil, donc pour rappeler que j'étais en exil, donc je ne connaissais même pas vraiment l'ambassade de la RDC. Du Zaïre à l'époque, puisque je n'avais même pas droit à un passeport congolais. Donc ça fait que ça a été pour moi l'opportunité de connaître l'Afrique, mais l'Afrique en Europe.
Voilà, et après la Mauritanie, vous assumez la même fonction, cette fois-ci à l'ambassade de la République du Zaïre en Belgique.
Mais écoutez, là oui, j'ai commencé parce qu'il y a eu changement de décor dans l'ambassade, et il se trouve que j'ai toujours été une passionnée de la bureautique. Donc j'avais une assez bonne maîtrise de l'ordinateur et des traitements de texte, de tout travail bureautique, et l'ambassade voulait se moderniser. Il se trouvait que le personnel qui était là n'était pas encore apte à utiliser ce nouvel outil et il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Je crois que c'était un peu à l'audace, c'était un peu frondeur pour voir est-ce qu'on allait accepter la fille Tchombé à l'ambassade du Zaïre. Et effectivement, on l'a accepté, mais du bout des lèvres, et je n'ai pas pu rester très longtemps.
Pourquoi? À cause de l'ambiance qui régnait à l'ambassade?
Mais je crois que les gens avaient peur de faire signer un contrat définitif à la fille Tchombé, parce que ce n'était peut-être pas très politiquement correct à l'époque d'utiliser les enfants de notre premier ministre, puisque je vous dis que nous n'avions pas droit au passeport congolais, on l'a eu très tard. Donc j'étais mis un peu comme une réfugiée politique par rapport à mon pays, alors que, bon, j'avais jamais fait de politique. Je vous dis, je suis arrivée dans le bac à sable, moi, en Europe.
Quelques temps après, on vous retrouve dans le journalisme.
Oui, j'ai fait du journalisme, parce que c'est ça, mon métier de prédilection. C'est ça que je voulais faire, et j'avais envie de faire ça. J'avais raté de peu de travailler avec De Mal Afrique, parce que De Mal Afrique avait dû fermer à Paris, donc j'ai commencé à faire l'expérience du journalisme en Belgique, et c'était assez intéressant.
C'est en quelle année que vous retournez en RDC?
Je rentre en RDC en 97.
C'est à l'entrée de la ville?
Oui, je rentre. En fait, le gouverneur du Katanga de l'époque, qui s'appelait Kakuji, il venait, donc la FDL venait de prendre le Katanga, et le gouverneur de l'époque, qui a été nommé en avril 97, Monsieur Kakuji, feu Monsieur Kakuji, parce que hélas, il est décédé depuis un an, il m'avait connu en Europe, et il savait que j'étais fort impliqué aussi bien dans des ONG, des droits de l'homme, de développement, donc j'avais un background assez varié. Et puis je m'étais aussi beaucoup occupée des femmes, parce que bon, vous savez que les femmes ont toujours du mal à s'exprimer, à trouver leur place dans la société. Et puis moi, j'étais aussi un produit de toutes cette lutte féminine qu'il y a eu en Occident. Donc je suis devenue une femme assez décomplexée, je veux dire. De ce fait, ils voulaient aussi que les femmes en RDC, et les femmes au Katanga en l'occurrence, soient aussi décomplexées et qu'elles puissent au fond travailler au même titre que les hommes dans des postes de décision. Donc il m'a demandé de venir l'aider au gouvernorat du Katanga, d'abord pour penser l'organigramme du gouvernorat et les priorités du gouvernorat. Donc nous étions une équipe qui venions de Belgique, avec lesquelles nous avions travaillé depuis longtemps. Et puis, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au gouvernorat, et là je me suis occupée du socio-culturel, de la politique et de l'administration.
Après le gouvernement, on vous retrouve dans le gouvernement central comme vice-ministre aux affaires sociales, chargé des groupes vulnérables.
Oui, c'est feu le président Kabila, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui m'a demandé de monter à Kinshasa et de m'occuper effectivement du groupe vulnérable du ministère des Affaires sociales, parce que il avait découvert que pendant longtemps j'ai fait en Belgique du bénévolat, je m'occupais d'handicapés. Tout à fait bénévolement.
Vous vous connaissiez personnellement ou c'est quand vous êtes venu travailler?
C'est quand je suis
en RDC qu'il a commencé à vous découvrir.
C'est quand je suis venu travailler. Personnellement, bon, comme c'était un président pointilleux, je pense qu'il avait fait des recherches. Il voulait savoir à qui il avait affaire. Et il avait découvert qu'effectivement, pendant longtemps, je me suis occupée de groupes vulnérables en Europe et surtout d'handicapés.
Madame Isabelle Makitsombe, qu'est-ce que vous attire dans la politique?
Je ne sais pas si vous avez lu Astérix, mais bon, mais moi je dirais comme Obélix, je suis tombée dedans. Je ne sais pas quand j'ai commencé la politique, parce que la politique fait partie de l'histoire de ma famille. C'est vrai que mon père a été Premier ministre, avant il a été président du Katanga, mais il descend de la famille des Antiaves. Ma mère aussi descend des Antiaves qui sont les empereurs Lunda. Donc ça fait quand même depuis, je dirais, 4-5 siècles que ma famille est impliquée dans la chose publique. Donc tout naturellement, la
société
m'a rattrapée, parce que je pense que je n'étais pas convaincue de faire de la politique, et je crois même que je ne voulais pas faire de la politique. Tant que j'ai travaillé en Occident, j'ai pas voulu faire ça. J'étais un peu meurtrie parce que je n'ai pas eu vraiment une belle enfance avec un père, parce que la politique, j'estimais que c'était la politique qui m'avait prise mon père, et donc j'avais un petit peu de ressentiment par rapport à la chose publique, parce que je me disais que ça demande beaucoup de sacrifices et que finalement ce sont les proches qui payent. Et je ne trouvais pas non plus que dans l'environnement politique, on avait remis mon père à la place qui lui revenait. Donc je me disais que dans la politique, il y a aussi une ingratitude. Donc je n'avais pas tellement envie de refaire le même parcours que lui. Mais une fois rentré dans ce pays, il était difficile de se soustraire à ça, parce que d'abord, un, les gens mettent en vous tant d'espoir, vous ne vous y attendez pas. Et puis vous vous rendez compte que vous êtes décomplexé, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez revendiquer, et vous vous dites, mais au fond, il faudrait aussi être la parole des sans-voix. Et surtout, quand j'ai vu aussi la situation des femmes ici, je me suis dit, non, il faudrait aussi donner ma quote-part. Et puis je me suis dit, non, avec l'histoire que j'ai, c'est pas possible de me soustraire.
En 2001, vous êtes vice-ministre à la coopération régionale chargée de la francophonie dans le gouvernement de Sali Toubis, de M. Laurent-Désiré Kabila. En 2001, vice-ministre à la coopération régionale chargée encore une fois de la francophonie dans le gouvernement de Joseph Kabila.
Oui.
Vous étiez commissaire général du gouvernement chargé de la francophonie. En quoi consistait votre travail?
Écoutez, comme vous voyez, j'avais commencé avec la francophonie du temps de Laurent-Désiré Kabila. Parce que pendant un temps, la RDC avait plutôt des amours ombrageuses, je dirais, avec la francophonie. Il y a eu même un moment où on a pensé se retirer de la francophonie. Mais le président Laurent-Désiré Kabila m'avait demandé de venir, et comme il savait que j'avais évolué en France et que je connaissais la problématique de la francophonie, il m'a demandé de lui débroussailler le terrain et de reprendre contact avec les autorités de la francophonie.
Vous avez travaillé déjà dans la francophonie?
Non, je n'ai pas travaillé dans la francophonie, mais j'étais en France quand on a créé la francophonie. Alors ce commissariat servait d'interface, c'était le ministère de la francophonie en quelque sorte, parce que j'avais rang de ministre en tant que commissaire, et ça me permettait de faire l'interface entre le gouvernement congolais, la société civile congolaise et la francophonie. Donc ça permettait de redynamiser et aussi d'avoir une politique francophone cohérente dans notre pays, parce que nous avions fait aussi un conseil consultatif qui permettait d'avoir les représentations de tous les ministères et de la société civile, ce qui faisait que, bon, à la francophonie, on parlait que d'une seule voix, et en même temps que commissaire général, je représentais déjà le président au conseil permanent de la francophonie. Donc, on a retrouvé une crédibilité à cette époque-là, et puis les acteurs francophones ont commencé à revisiter notre pays, et là, effectivement, nous avons retrouvé notre statut de deuxième pays francophone. À l'époque, nous étions le deuxième pays francophone. Aujourd'hui, nous sommes passés au premier pays francophone en tant que en nombre de locuteurs. Et c'est comme ça que nous avons travaillé. Mais malheureusement, ou heureusement, je dirais, puisque il y a eu un plus 4. Alors, comme le ministère des Affaires étrangères n'était plus dans l'escarcelle du président de la République, donc c'est passé à l'opposition, à l'ancienne opposition, je dirais. Alors, de ce fait, ils n'ont plus accepté qu'il y ait un commissariat général à la francophonie, parce qu'on prétendait à l'époque que ça permettait au président d'avoir une diplomatie bis. C'est ainsi qu'on a déboulonné le commissariat général à la francophonie, sur l'autel de la paix, je dirais. Et j'ai gardé la casquette de représentante personnelle du chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie.
Et donc, vous aviez deux casquettes, commissaire général et puis représentante spéciale du chef de l'État. Madame Tchondé, quand on parle de la francophonie en RDC, on a l'impression que ça concerne une certaine catégorie des personnes et toute la population n'est pas impliquée.
Mais écoutez, je pense souvent que c'est une méconnaissance. Mais on doit quand même faire notre mea culpa à nous qui nous occupons du domaine. C'est que peut-être que nous manquons un peu d'énergie dans la vulgarisation du concept en RDC. Mais bon, c'est vrai, ceux qui peuvent sortir sur Internet ont accès à l'information, mais je pense qu'il y a un travail de fond à faire.
Et puis, quand vous discutez avec les gens, ils vous disent, oui, la francophonie, on en parle en RDC, si c'est organisé des dictées des Français dans les lycées, mais qu'est-ce que la RDC gagne en faisant partie de la francophonie?
Je crois que la dictée, c'est le côté anecdotique, c'est le côté festif. Bon, quand on veut célébrer la journée internationale de la francophonie, bon, bien sûr qu'on va parler de dictée, on va parler de syntaxe, on va parler de tout ça, parce que d'abord, la francophonie, c'est la réunion des pays qui ont le français en partage. Donc, la dictée, c'est juste symbolique, et ça ne se passe qu'une fois par an. Mais entre-temps, la francophonie a des programmes ici en RDC. La francophonie fait une coopération multilatérale avec la RDC. La francophonie s'implique à différents niveaux. En RDC, la francophonie a appuyé le processus de paix de la RDC. Mais au-delà de ça, le projet de constitution a été traduit dans toutes les langues nationales de la RDC par la francophonie. La francophonie a appuyé les institutions citoyennes qu'on a mis après le dialogue intercongolais, à savoir la haute autorité des médias, l'Observatoire des droits de l'homme, etc. Bon nombre de projets et de rencontres ont été financés par la francophonie. La francophonie a permis aussi de moderniser notre outil juridique, à savoir que nous n'avions même pas pu rassembler tous les codes juridiques de la RDC. Ça a été fait avec le financement de la francophonie. Bien sûr, il n'y a pas de grande visibilité de ça, mais il y a une efficacité dans la vie de tous les jours des Congolais. Et puis vous avez aussi des financements de projets de développement, que ce soit pour des ONG, ça va jusqu'à de la micro-savonnerie artisanale à la radio rurale. Donc il y a bon nombre de choses qui sont faites, mais comme je vous dis, nous péchons par le manque de visibilité médiatique, je dirais.
Vous avez participé à plusieurs rencontres, pas seulement dans les cadres de la francophonie, mais dans d'autres domaines aussi. Je dirais même que vous avez parcouru presque le monde entier.
C'est vrai que je pourrais dire que j'ai des baskets de globe-trotteur et que depuis que je suis née, je dirais que je parcours le monde, donc ce n'est qu'une continuité tout à fait naturelle. Mais c'est très intéressant, effectivement, de parcourir le monde, au-delà du fait qu'on dit que les voyages forment la jeunesse, donc je reste éternellement jeune puisque je voyage énormément, mais c'est surtout les voyages vous permettent une tolérance face à l'autre, parce que dans les voyages vous découvrez des tas de cultures, des tas de peuples, des tas de façons de voir, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une vérité unique, qu'il n'y a pas un discours univoque, et que le monde est fait de multiplicité, et c'est ça qui fait notre richesse. Et je pense que les voyages m'ont permis d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et d'avoir peut-être une plus grande sensibilité des autres.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Isabelle Mathieu-Tchombe, ancien commissaire général du gouvernement chargé de la francophonie et actuellement représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, et c'est le grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Madame Tchombe, comment vous passez vos moments de détente?
Avant, je faisais énormément de sport, mais depuis que je suis rentrée dans mon pays, je fais beaucoup moins de sport, malheureusement. Mais j'étais une passionnée de sport, j'étais une passionnée d'équitation, je montais très bien à cheval, j'étais une passionnée de natation, et j'ai appris à mes enfants d'abord à courir, et jusqu'à ce que je rentre dans ce pays, je les battais à la course, mais depuis, ils m'ont vraiment rattrapé et dépassé, et c'est moi qui suis à la traîne aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé comme compensation quand je veux me calmer, je veux être tranquille? J'ai un îlot chez moi, j'habite Kinshasa, j'habite la Gombe, mais j'ai réussi à créer un îlot parce que je jardine. J'ai fait un magnifique jardin. Je pense que quand on arrive chez moi, on a l'impression qu'on est dans une autre ville et qu'il y a la paix. Donc, j'aime beaucoup le calme. Et je lis beaucoup, je lis beaucoup et je suis incapable de rester.
C'est quel genre des bouquins que vous aimez lire?
Mais je suis très éclectique. Hein. Je suis très éclectique, ça dépend des humeurs. Mais j'écris aussi.
Vous êtes présidente d'une association de Lunda Divar. Est-ce qu'elle existe toujours, cette association?
Cette association existe toujours. De temps en temps, elle a du mal parce que nous n'avons pas encore la culture, je dirais, de la cotisation. Nous sommes encore dans l'esprit du président fondateur, c'est-à-dire que celui qui fonde paye, etc., etc. C'est toujours les dirigeants qui doivent payer. Les gens n'ont pas encore appris qu'il faut s'approprier de ces associations. Donc, pour l'instant, oui, je suis président de cette association, même si pour l'instant, nous avons quelques problèmes dans cette association. Il y a une dichotomie.
Problème lié à l'argent ou autre chose?
Je dirais qu'il y a des interférences d'hommes politiques qui pensent que les associations socioculturelles doivent être des tremplins pour jouer des rôles politiques. Donc, je me bats contre ça. Je suis une légaliste. Voilà.
Madame Isabelle Matip-Tchombe, cette année, l'ARDC va fêter son 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. Quel bilan vous faites de ce long parcours, 50 ans après l'ARDC? On est où?
Mais on a fait un long chemin. C'est vrai que on a souvent la sinistrose dans l'RDC, on se dit qu'il n'y a rien qui va, etc. C'est vrai, mais on est un peuple qui vient de loin. On a 50 ans d'indépendance, mais on a eu aussi quelques décennies de violence. Et aujourd'hui, on est en train de se reconstruire. On vient de loin, on ne doit pas oublier que il y a 50 ans, les pères de l'indépendance ont arraché notre indépendance. On venait d'une colonisation qui avait un visage d'apartheid.
Est-ce que c'était pas précoce?
Écoutez, je ne sais pas si c'était précoce, parce qu'on ne refait pas l'histoire. Il faut prendre l'histoire comme elle est venue, prendre l'enseignement de ce qui est venu. C'est vrai qu'il y avait des partisans. Mon propre père trouvait que il n'était peut-être pas de bon aloi d'avoir l'indépendance directement. Parce que, justement, à l'époque, il n'y avait que 3 universitaires et les gens n'étaient pas formés. Nous venions d'un régime quand même violent, oui, sectaire, il faut le dire. Il y avait l'apartheid, mais on ne l'appelait pas comme ça. Mais nous en voyons encore, je dirais, les conséquences. C'est que vous avez la cité. La problématique de la cité et de la ville vient du système colonial. La cité était indigène et la ville était blanche. Et moi, mes parents, d'ailleurs, ont vécu des paradoxes où vous engagez des gens, vous travaillez, vous avez des employés blancs, mais vous devez quitter la ville, vous, à 17h pour regagner la cité, alors que vos employés restent en ville. Nous venons d'un système qui nous a peut-être aussi appris la violence. On est toujours étonné de voir des hommes en armes qui se jettent sur les gens, mais on oublie qu'au temps colonial, la force publique, on lui demandait de mater l'indigène. On oublie que du temps colonial, on devait produire du caoutchouc. Quand on ne produisait pas, on nous coupait les bras. On nous tuait quand on n'était pas productif. Donc il y a toute cette violence-là dont on a hérité. Et on ne sait pas toujours pourquoi les gens sont violents à RDC, mais ils ont une histoire violente. Alors, mais malgré ça, malgré cette histoire violente qui, de temps en temps, nous a fait reculer, parce que ces décennies de conflits armés ne nous ont pas fait développer. Nous devrions être à la pointe de l'Afrique aujourd'hui. Mais, malgré ça, nous ne sommes pas morts. Malgré ça, nous ne sommes pas balkanisés alors que les gens pensaient que ce pays était voué à être détruit. Et aujourd'hui, nous sommes un pays entier. Et aujourd'hui, nous avons des gens formés, nous avons des gens qui ont étudié, nous avons des gens qui peuvent s'exprimer à travers le monde et apporter des choses à la RDC. Alors aujourd'hui, le pays se construit, peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais il se construit. Et aujourd'hui, les gens réapprennent la démocratie. Aujourd'hui, les gens réapprennent que quand on la voit, sa voix compte et que notre voix nous permet d'avoir des gens qui nous représentent et que demain, si ces gens qui nous représentent ont failli à leur mission, nous pouvons leur demander de rester chez eux et d'en choisir d'autres. Donc nous sommes en apprentissage, nous sommes en évolution et je pense que on vient de loin. Donc à bas la sinistrose, il faut être positif et se dire que nous sommes quand même arrivés à quelque chose.
Voilà, Madame Isabelle Matip-Tchombe, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Vous êtes une femme politique. Vos ambitions pour 2011?
J'espère être élue parce que je pense que Il faut qu'on arrête avec la politique de la désignation. Il faut qu'on soit représentatif de quelque chose. Et quand on se targue de vouloir faire la politique, de pouvoir exercer un leadership, de servir les autres Congolais, on doit pouvoir être choisi par eux. Et on doit rester, garder ce lien avec son électorat, et je pense que c'est très important. Pendant longtemps, j'ai travaillé dans des associations, dans d'autres choses où, effectivement, vous étiez choisi. Mais après, bon, je suis rentrée dans un parcours politique où vous êtes choisi par des dirigeants. Mais j'aimerais bien aujourd'hui que ce soit la base qui me choisisse et que je puisse me dire que, effectivement, mon discours est fondé.
Et donc, 2011, à la députation, ou au Sénat?
À la députation, parce que quand je pense au Sénat, moi je pense à la Rome antique, les sénatoresses, c'est quand même des gens un peu âgés et des gens sages. Donc je crois que je...
Et vous pensez que vous n'êtes pas...
Je ne suis pas encore assez chenue. Je ne suis pas encore assez chenue, donc je vais me contenter, si j'ose dire, de commencer par l'Assemblée parlementaire.
Madame Isabelle Mathieu-Chombé, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Mais c'est moi qui vous remercie, c'est tout avec plaisir.
C'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous Isabelle Mathieu-Chombé, ancienne commissaire générale du gouvernement chargée de la francophonie et actuellement représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Merci à Guy Manzango qui était à la technique au micro. Kevin Côté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net sur la page de Grand Témoin en dessous de programme sur Radio Okapi.